Merci. Bonjour, Michel Cosmao. Je voulais simplement faire une petite remarque. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne espérance que Agnès Buzyn s'appelle ministre des Solidarités et de la Santé ?
Comme je l'ai dit, il y a plusieurs solidarités, il y a plusieurs formes de solidarité. La littérature nous le montre, il y a plusieurs approches. Il y a des approches sociologiques, des approches réglementaires, il y a des approches même en gestion. Enfin, parler de solidarité, c'est pas... Enfin, vous trouvez que c'est un problème ?
Ah non,
non, non. En tout cas, c'était une bonne nouvelle pour nous parce que mon équipe s'appelle Santé Solidarité, pour tout vous dire. Alors, c'est le fait du hasard, hein, c'est le fait du hasard. Mais il n'empêche que cet intitulé-là, voilà, rejoint bien, en tout cas, les préoccupations de la santé, puisqu'elle s'exerce sous différentes formes de solidarité.
Alors, j'ai deux questions. Je m'appelle Véronique Ezrati. J'ai deux questions. La première question, est-ce qu'il n'y a pas eu une évolution qui est relativement récente, c'est-à-dire qui date d'environ 10 ans, vers plus de tayloristes et moins de confiance dans la capacité et la compétence du médecin et l'expertise du médecin, qui est négative? Et deuxièmement, quid de la judiciarisation, c'est-à-dire que le fait que les patients lisent sur Internet comment ils doivent être soignés et que si le médecin ne veut pas le soigner comme c'est marqué sur Internet, risque de porter plainte, est-ce que ce mécanisme-là n'a pas des conséquences sur l'organisation de l'hôpital ?
Alors, sur l'excès de bureaucratie, vous avez raison. On assiste à une hyper-normalisation, mais une fois de plus, qui n'est pas, me semble-t-il, spécifique au secteur de la santé. Cette hyper-normalisation, on la voit partout. Et dans le secteur de la santé, il y a eu cette phase qui est très récente. Elle a une vingtaine d'années, mais on partait de rien. On partait strictement de rien. Je vous rappelle qu'au début des années 90, avec le plan Juppé de 91, qui a donné lieu à la grande réforme de 96 par la suite, et de la certification du début de la bureaucratie telle qu'on la connaît aujourd'hui, il n'y avait strictement rien. Vous alliez dans un service, par exemple, d'immunologie, vous ne saviez pas ce qui s'y passait, qui soignait qui, on y faisait quoi, comment, avec quel argent. C'était très très opaque. Donc il a fallu mettre de l'ordre là-dedans et au fil des années, eh bien c'est l'excès inverse qui s'est produit. Et effectivement, ce qui se passe à l'intérieur des établissements, ben, c'est ce qui se passe partout ailleurs. On crée de la procédure pour pouvoir se couvrir, pour pouvoir expliquer, pour pouvoir montrer aussi, ça justifie aussi du travail que l'on fait. La procédure en soi n'est pas mauvaise, on en a besoin, on a besoin de protocoles, on a besoin de capitaliser pour transmettre, on a besoin de montrer. Le problème, c'est quand il y en a trop et que ça sert à rien. Là, ça commence à devenir problématique. Sauf que il faut à un moment donné prendre la décision de déconstruire. Et c'est cette décision-là qui est quand même très difficile. Et en même temps, on a... Juste 5 minutes. Et en même temps, sur le secteur de la santé, on a un gros problème sur la manière dont on organise le reporting de cette information. Ceux qui collectent l'information ne sont pas ceux qui la lisent, qui l'interprètent et qui prennent des décisions. Donc forcément, ceux qui ont le sentiment de perdre du temps à ces fonctions dites de gestion administrative qui sont peu nobles aux yeux des soignants, c'est pas forcément vu d'un bon œil et parfois c'est même très violemment rejeté, puisqu'on ne comprend pas ce que l'on fait de cette information et à quoi elle sert. C'est pour ça que si on agit un peu plus sur le cloisonnement et sur la subsidiarité, celui qui collectera l'information sera aussi éventuellement celui qui la saisira dans la base de données et pourra en interpréter les résultats et pourra prendre des décisions, alors immédiates ou différées, seule ou collectivement, mais en tout cas sera partie prenante de cette prise de décision, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas. Et la collecte de données qui est exigée de la part de la tutelle, n'est pas forcément celle qui est utile pour les professionnels. Si vous voulez, après, c'est aussi une histoire d'objectif à atteindre. Un ministère, via ses tutelles, a besoin de données pour savoir quel est l'état de santé d'une population, qu'est-ce qu'on fait de notre argent, que font les personnels, etc. Pour un professionnel, c'est comment je vais organiser mon quotidien, comment je vais remplacer mes malades, enfin les personnels qui sont absents, voilà, comment je vais organiser la venue de patients atteints d'Ebola dans une situation de crise, comment je vais faire face à... Voilà, ils ont d'autres problèmes problématiques, ils ont besoin d'autres types d'indicateurs qu'ils ne savent pas nécessairement construire et pour lesquels ils ne disposent pas des outils qui permettent de capitaliser l'information. Et on ne le partage pas, puisqu'on a beaucoup de mal à partager.
Oui, déjà merci beaucoup pour ce passionnant exposé. Moi j'avais juste une question en fait pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites concernant en fait la nécessité de déconstruire l'organisation, on va dire, pour essayer d'avoir une prise en charge plus humaniste qu'il n'est aujourd'hui des patients. Et en tout cas, il ne m'a pas apparu clairement aussi que la question de la formation des personnels de santé était quelque chose à peut-être à revoir, voire à déconstruire aussi dans ce même cadre. Qu'est-ce que vous pensez de
ça ? Oui, effectivement. Mais ça fait partie du système. La formation des soignants est organisée par les soignants pour les soignants. Alors, certaines formations ont basculé du côté de l'université. Mais si vous voulez aller apprendre le management, la complexité, le décloisonnement, la coopération, la collaboration en école d'infirmière, non. C'est pas possible, sauf à ce que ce soit décidé à l'intérieur de ces écoles-là. Il y a quelque chose à faire, évidemment. Ça fait partie de ces fameux silos dont je parlais tout à l'heure. Tout est extrêmement cloisonné, mais à tous les niveaux. Entre organisations, entre niveaux régional, départemental, national, tous les niveaux sont extrêmement cloisonnés. Il faudrait, pas à pas, commencer un petit peu à déconstruire et à se parler pour mieux coopérer. Mais comme Descartes nous a appris à être expert dans son propre domaine, tout le monde veut être expert dans son domaine et refuse d'entendre l'expertise de l'autre. Donc le discours que j'ai ici peut vous paraître, quand on est extérieur au secteur de la santé, assez finalement banal et évident, sauf que confronté au terrain, je peux vous assurer que c'est pas du tout vrai. On vous renvoie dans vos cordes, mais non madame, le management, quand on est infirmière, on n'en a pas besoin. Mais bien sûr que si, ne serait-ce qu'organiser un planning de travail demande quand même de combiner des connaissances, des compétences, des qualités, prévoir des recrutements. Ça s'invente pas. Même pour des choses extrêmement pratiques, le corps soignant n'y est pas nécessairement préparé, sauf à faire une école des cadres. Bon, voilà.
Bon, merci. Non, on va s'arrêter parce que on va essayer de respecter l'horaire. Merci. Merci Sandra. Mais je crois que le raisonnement que tu as, on peut le mettre sur l'éducation nationale, sur un tas de choses, parce qu'on y fait les mêmes constats.